Frédéric Burguer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de FB Asia Finance. On va parler avec vous d'un ouvrage collectif sur les dettes publiques à la dérive. C'est un vrai sujet effectivement du moment qui a été une contribution du cercle Turgot. Effectivement, c'est le sujet parce qu'on voit les marchés financiers réagir, on voit les États se poser des questions. Est-ce qu'on est dans une situation normale, une situation économique normale? Parce que ça fait quand même un moment qu'on a ces taux très bas.
Alors non, justement, ce qu'on a voulu faire quand on a regardé le point de départ de cet ouvrage, c'est de constater d'une part que depuis 10 ans, l'économie a tenu grâce à une quantité de dettes nouvelles considérables, dettes publiques dans les pays matures, dettes privées dans un pays comme la Chine, par exemple. On a consacré un chapitre à la Chine parce que pour l'instant, la dette publique n'est pas très élevée, mais il y a une dette privée qui va générer un soutien public dans un deuxième temps. Que cette augmentation très forte des dettes avait nécessité qu'on mette en place des moyens nouveaux. C'est ce qu'on a appelé les politiques non conventionnelles, c'est-à-dire les rachats d'une partie de la dette publique par les banques centrales.
Le fameux quantitative easing en anglais.
Et que tout cela a certes provoqué un cycle économique qui a été particulièrement long, puisqu'on est à la 9e année de cycle, ce qui est très impressionnant historiquement, mais en même temps avec une efficacité en termes de croissance économique qui est relativement limitée. On est quand même dans des croissances extrêmement poussives dans les pays les plus matures, en particulier l'Europe.
Oui, on se dit, et d'ailleurs on l'entend dans certains interviews, qu'on ne reviendra pas d'ailleurs à la croissance antérieure, vu justement ces montagnes de dettes, publiques ou privées. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être sauvé certains États, certaines entreprises privées, mais on n'est pas forcément en capacité de retrouver la même croissance.
Alors tout à fait, on ne retrouvera pas de la croissance, d'une part parce qu'on a beaucoup d'économies qui sont des économies matures, et que d'autre part, parce que ce stock d'endettement va peser sur nos capacités à aller de l'avant. Quand on est très endetté, à un moment donné, il faut se désendetter ou digérer la dette, puisque c'est un peu compliqué pour les dettes publiques actuellement. De toute manière, on est rentré dans un contexte où la croissance potentielle à moyen terme devrait être très faible, d'autant que la Chine, qui a généré à peu près la moitié de la croissance mondiale depuis 10 à 15 ans, si on la considère avec ses satellites asiatiques, va devoir aussi ralentir beaucoup plus significativement qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant.
Alors, on aime bien effectivement parler économie et parler des théoriciens de l'économie comme justement Keynes sur la fameuse euthanasie des rentiers. Mais vous expliquez un peu différemment les choses, qu'on a peut-être une version souvent édulcorée. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce qu'il disait lui à l'époque sur cette euthanasie des rentiers?
Alors c'est le point essentiel du moment, c'est-à-dire qu'on va constater dans les 3-5 ans qui viennent que la rentabilité moyenne des portefeuilles d'actifs va être très faible, sans doute proche de zéro. Alors pourquoi on entre dans ce type de mécanique? C'est qu'à partir du moment où les taux des obligations d'État sont à zéro, tout le reste des rémunérations des placements s'écrase. Et on voit disparaître ce qu'on appelle les primes de risque, c'est-à-dire que on est incité, parce que les obligations ne rapportent plus rien, à aller vers plus de risques, mais en même temps, ce risque est très peu rémunérateur. Et dans un environnement où il n'y aura pas de croissance, ça va continuer. Donc on arrive dans une situation où les portefeuilles d'actifs, que ce soit ceux des fonds de pension ou ceux des particuliers, vont quasiment rien rapporter, et les épargnants devront consommer leur capital. Et c'est ça que Keynes appelle l'euthanasie des rentiers, il y a dans une index de la théorie générale. C'est pas l'inflation, habituellement on dit toujours oui. C'est l'inflation, en fait c'est pas le cas. Alors l'inflation peut être ensuite un accélérateur de ce phénomène, mais ce n'est pas ce que disait Keynes. Keynes disait à partir du moment où on élimine la rareté du capital en injectant des liquidités de manière abondante, ce que font les banques centrales, eh bien on réduit la rémunération du capital et donc le rentier, au lieu de vivre des revenus de son capital, vit de la consommation de son capital. C'est ce qui s'est passé pendant la première moitié du XXe siècle et c'est ce qu'on va voir à nouveau. Alors c'est intéressant parce que ça permet de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière cet endettement public. Quand les États s'endettent beaucoup, c'est que la régulation de l'économie n'est pas bonne. Et quand la régulation de l'économie n'est pas bonne, c'est parce que la répartition de la richesse n'est pas bonne non plus. Et il faut donc rééquilibrer les choses.
Alors, on a entendu d'ailleurs Warren Buffett en parler, en disant il y a quelques années déjà, nous avons gagné, en parlant de ce fameux 1% des très très riches qui sont souvent américains ou autres. Et il disait, c'est nous qui avons gagné.
Oui, si on veut, enfin c'est pour l'instant, mais il va falloir redistribuer cette richesse. Et là, on voit bien que c'est pas, qu'il n'est pas tellement question de redistribuer des riches vers les pauvres. Hein. Ce n'est pas ce type de problématique, mais qu'on est plutôt dans une logique de redistribution intergénérationnelle. C'est-à-dire que si les gens qui détiennent du capital aujourd'hui et qui espéraient vivre de leurs revenus confortablement tout en conservant ce capital sont condamnés à consommer ce capital, eh bien on voit qu'on a un rééquilibrage qui se fait entre ce qu'on appelle les rentiers dans le langage de Keynes et ce qu'on appelle les consommateurs, les travailleurs. Et ça rejoint un peu le débat qu'on commence à voir poindre qui concerne la question des conflits intergénérationnels.
Oui, parce qu'on a parlé à l'occasion en France notamment des retraites, de la
Exactement.
CSG. On va avoir donc un besoin de rééquilibrage, mais c'est vrai que ça a du mal à passer. Quand on regarde les perspectives, vous avez parlé des retraites, des fonds de pension, il y a un vrai sujet aussi là-dessus, puisque s'il n'y a pas de rendement, on se pose forcément la question de comment vont être payées les retraites, puisque là, il faut investir, mais pendant une période assez longue.
Alors, le mouvement que j'ai décrit n'est pas un mouvement brutal, mais on risque d'assister sur les 20 ans qui viennent à une érosion régulière des retraites. Vous avez déjà des fonds de pension en Europe, par exemple le fonds suédois, qui fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que quand les marchés baissent, on réduit le montant des retraites. C'est ce qui s'est passé en 2009-2010. Et les retraites ont été réduites de 4%, 3%. Alors après, c'est remonté un petit peu parce que les marchés sont repartis. Mais en tendance, quand on fera le bilan sur 10 ou 12 ans, il est probable que les Suédois ont vu leurs retraites diminuer à peu près en pouvoir d'achat de 0,5% par an sur les 10 dernières années. Donc vous voyez, c'est une érosion très lente, mais certaine.
Alors, à la manœuvre, bien entendu, sur ces aspects-là, les banques centrales, hein, bon, les États aussi, mais on sent bien que, effectivement, sur les trillions de dollars ou d'euros qui ont été sortis, ce sont les banquiers centraux. Avec ces politiques, comme vous avez dit, non conventionnelles, est-ce que finalement, ils ne sont pas allés dans des territoires, inconnus et que, du coup, aujourd'hui, bah, en s'en sortir, c'est très compliqué. Il y a même des économistes qui disent, peut-être qu'on ne pourra pas sortir du quantitative easing.
Alors, on n'en sortira pas, effectivement, très probablement. On est entré dans une politique qui a des effets pervers très importants. On est dans un environnement semi-connu, puisqu'on a déjà eu ce type d'expérience dans les années 30. Alors, il se trouve que c'est difficile de tirer des conclusions sur ce cas connu, puisque vous avez eu la guerre qui a complètement perturbé la situation économique. Donc, de fait, ce n'est pas tout à fait comparable. Ce qu'on peut imaginer, c'est que cette intervention des banques centrales va continuer, et ça peut durer très longtemps, qu'à terme, les dettes ne seront pas remboursables, c'est-à-dire qu'on devra les effacer. On devra trouver des moyens techniques de les effacer, qui ne sont pas encore inventés pour le coup, hein, des moyens adaptés à l'environnement. Ça pose tout un tas de problèmes techniques, mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. Hein. On peut dériver pendant 10 ou 15 ans encore.
Le mot de la fin, ça veut dire que pour les épargnants que nous sommes tous, voilà, dans la vie active, en train de réfléchir à ce qu'on peut faire, il faut avoir conscience de ça pour aussi ses futurs investissements.
Oui, tout à fait. L'alternative est compliquée parce que soit on reste sur des investissements à faible risque, c'est-à-dire les obligations assimilées, et on n'a pas de rendement. Donc c'est toujours désagréable d'investir dans un placement qui ne vous rapporte rien, mais on sait qu'il baissera pas. Ou alors on va vers des actifs beaucoup plus risqués, et là, le risque est mal rémunéré, et on le verra à la fin du cycle économique, quand l'économie va ralentir, on va voir que certains placements vont s'avérer beaucoup moins rémunérateurs qu'on l'imaginait.
Voilà, les dettes publiques donc à la dérive, c'est le titre de cet ouvrage. Merci Frédéric Burguière d'avoir été avec nous.
Merci à vous.